VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mardi 4 septembre 2018. Au Mali, le président Keïta, investi pour un second mandat, se fixe la paix comme priorité absolue. Au Burkina Faso, l'opposition appelle à une manifestation le 29 septembre contre la gestion du régime Kabouré. L'ONU exhorte les présidents russes et son homologue syrien à éviter un bain de sang à Idleb en Syrie. Aux États-Unis, démarrage de l'audition au Sénat du candidat du président Trump à la Cour suprême. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Au Mali, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême. Ibeka a été réélu avec 67,16% lors du deuxième tour de l'élection présidentielle du 12 août dernier. De Bamako, Kassim Traoré.
Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, veuillez venir devant le...
C'est à la suite de la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant Ibeka comme président de la République et le réquisitoire du procureur de la Cour suprême que Noum Tapili, président de la Cour suprême, appelle Ibeka à prêter serment. Ibrahim Boubacar Keïta, président réélu.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la constitution et la loi.
Noum Tapili renvoie par la suite Ibeka dans l'exercice de ses fonctions en ces termes.
La Cour déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République du Mali.
Après sa décoration, Ibeka a fait un discours à la nation appelant les Maliens à l'union.
Je vous appelle tous en ce moment solennel à nous regarder les uns les autres comme les frères et sœurs que nous sommes, à s'attacher à notre but commun, un Mali où chaque génération a accompli le devoir sacré donné à la génération suivante les ailes et l'élan de ses propres défis.
Les festivités de cette investiture se sont poursuivies au niveau du monument de l'indépendance où Ibeka a déposé une gerbe de fleurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Mali, toujours, un casque bleu a été blessé ce mardi par des tirs d'obus sur un camp de la mission de l'ONU à Ménaka. Des locaux préfabriqués de la MINUSCA ont été touchés par les tirs d'obus, selon un responsable du gouvernorat de Ménaka. Hier, deux véhicules suspects ont été aperçus près de Ménaka. Au Burkina Faso, l'opposition appelle à une journée de manifestation le 29 septembre pour protester contre la gestion du pouvoir de Roch Marc Christian Kabore, jugé chaotique depuis son accession au pouvoir en novembre 2015. Cette manifestation, qui se tiendra sur l'ensemble du territoire national, est la première du genre organisée par l'opposition depuis l'élection du président Kabore. Le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, a pointé la menace terroriste grandissante, l'aggravation de la misère, le chômage, la corruption et le népotisme, l'instrumentalisation de la justice, dit-il. En République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, exclu par la Cour constitutionnelle de la présidentielle du 23 décembre, a dénoncé ce mardi une parodie d'élection, estimant que le président Joseph Kabila choisissait les opposants devant concourir contre son candidat. Lundi, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de M. Bemba en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Le parti de Jean-Pierre Bemba a menacé ce mardi d'opter pour des actions citoyennes de grande envergure. Toujours en RDC, 8 militants du mouvement Lutte pour le changement, la Lucha, ont été accusés ce mardi de destruction méchante d'un véhicule par un officier de police en marge d'une manifestation hier à Goma, dans l'est du pays. Parmi les 8 militants, un est hospitalisé et a été auditionné sur son lit de malade par un magistrat. Les 7 autres sont détenus dans un cachot du parquet général de Goma pour raison d'enquête. 5 élèves d'un lycée en zone anglophone du Cameroun sont portés disparus depuis hier après l'attaque de leur établissement par des hommes armés. L'attaque s'est produite dans le lycée de Bafou, ville proche de Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest, le jour de la rentrée scolaire. Selon un témoin, l'information a été confirmée par une source proche de la direction de l'établissement. Au Rwanda, le parti du président Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler une écrasante majorité de sièges lors des élections législatives de lundi. Bagasikoura.
Après dépouillement de 70% des bulletins, la coalition menée par le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, obtient 75% des suffrages. Deux autres partis soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5% et 7% des voix. Le seul parti d'opposition autorisé à participer, le Parti démocratique vert, n'obtient que 4,5% des voix, soit moins que le minimum de 5% requis pour obtenir au moins un siège à la Chambre basse. Les résultats provisoires sont attendus dans la soirée. Les résultats définitifs, eux, doivent être publiés le 16 septembre. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour ces législatives. 53 sièges étaient en jeu sur les 80 députés de l'Assemblée nationale. Les 27 sièges qui restent sont restés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et des organisations spécifiques.
Le président sénégalais Macky Sall a appelé ce mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par les critiques occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de la Chine, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. M. Sall s'exprimait lors de la conférence de presse finale du 7e forum sur la coopération sino-africaine. Ce sommet diplomatique et commercial a réuni pendant deux jours à Pékin des dirigeants de 53 pays africains. Au moins 12 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dans le sud-ouest de l'Éthiopie, provoqué par de fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Des dégâts matériels pour une valeur proche d'1 million de birres sont également à déplorer dans cette région où les glissements de terrain sont réguliers en saison des pluies. En mai, 32 personnes étaient décédées dans des glissements de terrain similaires dans cette région. En Ouganda, les autorités ont interdit ce mardi un des plus importants festivals de musique électronique d'Afrique de l'Est, qu'elles estiment promouvoir le sexe, l'homosexualité et d'autres pratiques qu'elles jugent immorales. Le ministre de l'Éthique, Simon Lokodo, explique que cette décision a été prise au terme d'une réunion avec notamment le ministre de l'Intérieur, le chef de l'armée et le chef de la police. Le festival devait avoir lieu du 6 au 9 septembre. Au moins 90 éléphants ont été retrouvés morts, leur défense d'ivoire arrachée ces dernières semaines au Botswana. Ce décompte a été réalisé par l'ONG Éléphants sans frontières lors d'un recensement aérien de la population de pachydermes du pays conduit avec le ministère botswanais de la faune sauvage et des parcs nationaux. La plupart ont été tués par des balles de gros calibre près de points d'eau de la célèbre réserve du delta de l'Okavango dans le nord de Botswana.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, en Syrie, au moins 9 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des raids russes contre la province d'Idleb, dernier grand bastion des insurgés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions russes ont pris pour cible des secteurs contrôlés par les rebelles ou dominés par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces du régime dans la province de Latakia. Moscou accuse les rebelles d'être à l'origine de ces frappes qui ont touché une base militaire russe. Le régime de Bachar al-Assad massait depuis plus d'un mois des renforts aux abords de la province d'Idleb et des poches sous contrôle rebelle ou djihadiste. Le président Trump a mis en garde hier la Syrie, la Russie et l'Iran contre une attaque contre la province d'Idleb. Dans un tweet, il a averti que des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. « Ne laissons pas cela se produire », a dit M. Trump. L'Iran avait exprimé son soutien à l'offensive syrienne, disant, je cite, « que la région devait être débarrassée des terroristes ». Selon l'ONU, une offensive contre Idleb pourrait faire jusqu'à 800 000 déplacés et provoquer une catastrophe humanitaire.
Oui, et pour sa part, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a exhorté ce mardi le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à se parler en urgence au téléphone pour éviter un bain de sang à Idleb. À Genève, Stéphane de Mistura a appelé à une solution douce à cette crise, estimant que cet appel téléphonique entre les deux leaders devait avoir lieu avant le sommet entre le président iranien Hassan Rouhani avec ses homologues russes et turcs le 7 septembre en Iran. Ici aux États-Unis, coup d'envoi ce matin devant la commission juridique du Sénat du processus de confirmation du candidat de Donald Trump à la Cour suprême. S'il est confirmé, Brett Kavanaugh va remplacer le juge Anthony Kennedy qui a pris sa retraite. Abdourahman Dia.
Brett Kavanaugh a promis d'être un juge impartial. Dans son introduction, il a déclaré qu'un bon juge doit être un arbitre neutre et impartial. « Je ne tranche pas sur les dossiers selon mes préférences personnelles ou politiques », ajoute le juge âgé de 53 ans, qui brigue un siège à vie à la Cour suprême. Le Sénat a le dernier mot sur les nominations à la Cour suprême, qui tranche aux États-Unis sur les grands sujets de société, comme l'avortement, les lois sur les armes, le mariage pour tous ou le système de santé. Les démocrates ont demandé sans succès un report de l'audience pour étudier les 42 000 pages sur Brett Kavanaugh que le Sénat a reçues hier. Malgré la vive opposition des démocrates, sa confirmation semble pratiquement assurée, les républicains étant majoritaires au Sénat. Le juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite après trois décennies à la Cour suprême, jouait un rôle de balancier entre quatre conservateurs et quatre progressistes. Brett Kavanaugh devrait ancrer fermement la Cour suprême du côté conservateur.
Également, dans l'actualité, près de 4 millions de personnes déplacées par la guerre avec le groupe djihadiste État islamique en Irak sont revenues dans leur foyer. C'est ce qu'indique ce mardi l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Quelques 6 millions de personnes, soit environ 15% de la population, ont dû fuir leur foyer et se réfugier dans d'autres régions depuis l'offensive en 2014 du groupe qui s'est emparé d'un tiers de l'Irak. Voilà pour les nouvelles qui domine l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 0,7% pour le second trimestre consécutif. Cette mauvaise performance place Pretoria techniquement en situation de récession pour la deuxième fois en deux ans. D'après l'Office sud-africain de la statistique, la baisse est liée au recul de l'activité dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce et des industries manufacturières et publiques. En revanche, les mines, les finances, l'immobilier et les services ont été les principaux contributeurs de richesse. Le Nigeria a exigé du géant des télécoms sud-africain MTN le paiement de 2 milliards de dollars d'arriérés d'impôts. Néanmoins, le groupe sud-africain pense avoir totalement payé des montants dus. Récemment, la Banque centrale lui a ordonné le rapatriement de plus de 8 milliards de dollars transférés illégalement hors du pays. Elle a épinglé dans la foulée les quatre banques qui ont effectué ces transferts entre 2007 et 2015 et devront payer une amende de 14 millions d'euros. Entre 2013 et 2017, les exportations d'armes de la Chine vers l'Afrique ont enregistré une croissance de 55%. Cet approvisionnement en armes est passé de 8,6% à 17%. Pékin acheminerait ses armes vers plusieurs zones de conflit du continent, notamment en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Djibouti représente une plaque tournante de son commerce grâce à ses installations portuaires.
Place à présent à la page sportive qui nous est présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas. Liste des lions indomptables connus pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Oui, pour sa première liste avec les Lions indomptables, Clarence Seedorf a convoqué l'attaquant de Wolfsburg, Paul-Georges Ntep, qui a pourtant disputé deux rencontres amicales avec l'équipe de France, c'était en 2015. Hésitant à rejoindre la sélection camerounaise, l'ex-joueur de Rennes figure bien dans la liste définitive pour affronter les Comores en match de qualification pour la prochaine CAN qui débutera en juin prochain. Le joueur camerounais de 26 ans vient d'ailleurs de rejoindre la sélection actuellement en stage au Kenya.
Transfert pour un joueur sénégalais.
Oui, le FC Lorient a annoncé le recrutement de Sidi Sarr comme joueur joker. Le milieu international sénégalais de la Berrichonne de Châteauroux débarque dans le Morbihan sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat. Sachez aussi que Moussa Marega a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021. La saison dernière, l'attaquant avait joué un rôle majeur dans la belle saison de Porto puisqu'il avait inscrit 23 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues.
Du nouveau pour la sélection égyptienne.
Michel Salgado a été nommé sélectionneur adjoint des Pharaons, officialisation par la Fédération égyptienne de football. L'ancien latéral droit du Real Madrid et international espagnol sera le bras droit du sélectionneur mexicain Javier Aguirre et il pourra apporter toute son expérience du haut niveau à Mohamed Salah et ses coéquipiers.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons maintenant à nos dossiers du jour dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Bénin, les députés de la majorité ont approuvé la loi modifiant le code électoral. Parmi d'autres mesures, il faudra débourser une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions auparavant pour être candidat à une élection présidentielle. Cette loi fait du Bénin le pays africain où il faut payer le plus d'argent pour être candidat à la présidence. Pour décrypter le nouveau code électoral, Raissa Girondin a joint Mathias Oumpe, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa. Nous l'écoutons.
Donc c'est environ de 30 000 $ à 500 000 $. Pour les élections législatives, la caution est passée de 8 300 000 francs CFA pour une liste présentée aux législatives à 249 millions de francs CFA. Donc c'est environ de 15 000 $ à environ 500 000 $ pour présenter une liste aux élections législatives. Le deuxième élément, c'est l'introduction d'un seuil pour les élections législatives. Il n'y avait pas de seuil avant. Et il n'y a pas de seuil dans beaucoup de démocraties à travers le monde. Et la troisième disposition pour être candidat à toutes les élections, maintenant, il faut montrer qu'on est en règle vis-à-vis du fisc. Et donc c'est ça qui est comme un critère supplémentaire pour être candidat. Et pour finir, les alliances ne sont plus acceptées pour aller aux élections législatives. Il n'y a que les partis unitaires qui sont autorisés à présenter des listes pour les élections législatives.
Que l'opposition marque la plupart des mesures, elles ont été prises pour écarter de potentiels candidats. La majorité, elle, dit que c'est pour limiter le nombre de candidatures. Mais que faut-il en penser?
La quasi-totalité de ces mesures ont pour objectif de restreindre l'accès à la candidature. Et donc, de ce point de vue, c'est facile pour l'opposition de les présenter comme des mesures qui empêchent, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition.
Et qu'en est-il des anciens présidents?
Alors, le bruit avait couru qu'ils s'apprêtaient à introduire une disposition pour retirer le statut d'ancien président ceux parmi eux qui voudraient se présenter à des élections nationales. Je crois que finalement, cette idée a été abandonnée et donc, pour le moment, les anciens présidents peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter encore à des élections au Bénin.
Le vote de cette loi par le Parlement, est-ce qu'elle pourrait avoir une incidence sur l'ambiance même politique du pays?
Absolument. Lorsque vous initiez des lois pour restreindre l'accès aux postes électifs à des citoyens, il n'y a pas de doute que d'abord les acteurs de l'opposition seront mécontents et seront les premiers à s'exprimer, mais également tous les autres citoyens qui ont envie simplement d'aller s'essayer, n'est-ce pas, aux élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont déjà exprimés pour leur désir, n'est-ce pas, d'aller participer aux élections législatives, par exemple, qui auront lieu en mars, non l'année prochaine. Et donc, tous ceux-là, aujourd'hui, sont bloqués par cette disposition. Ça servira de source de remous politique d'ici jusqu'aux élections prochaines.
Mathias Oumpe, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, joint à Dakar.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Au Tchad, le journal hebdomadaire Al-Shahed, un journal bilingue, a été suspendu de toute parution pour 3 mois par la AMA, la Haute Autorité des Médias Audiovisuels, un organe de régulation des médias. Une suspension qui fait suite à la saisine de cette institution par le ministère tchadien des Affaires étrangères sur la base de la plainte des ambassades de l'État du Qatar et de celui de la République de Turquie au Tchad. Ces ambassades accusent le journal d'avoir diffusé de fausses informations portant atteinte à l'image de leur pays respectif, d'après ces ambassades. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajingar fait le point.
Née sur les cendres du Haut Conseil de la Communication sous la défunte Troisième République, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel est l'une, sinon la première institution issue de la nouvelle constitution consacrant la Quatrième République à être dotée de plein pouvoir. Elle a vu ses attributions renforcées dans l'ordonnance 16, signée le 31 mai 2018 par le président intégral Idriss Déby Itno. Plusieurs médias privés ont déjà eu maille à partir avec cet organe de régulation. La dernière en date est celle de la suspension du journal bilingue Al-Shahed. Accusé d'avoir publié de fausses nouvelles dans sa parution du 1er août dernier, qui, selon la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, ne contient aucun fait ou élément matériel permettant de publier des propos accusateurs à l'encontre des pays qui entretiennent des relations de coopération et d'amitié avec le Tchad, l'hebdomadaire Al-Shahed est suspendu pour 3 mois. Pour les responsables du dit journal, cette décision est un règlement de compte. Jules Daniel Yunkilam en est le rédacteur en chef section française.
Au lieu de se contenter de son rôle de régulation des médias, la Hamas dirige en un tribunal qui désormais a pour principale mission de régler les comptes des journaux d'une manière générale et précisément Al-Shahed qui critique les mauvaises pratiques converties en mode de gouvernance sous ces régimes. C'est malsain qu'un organe de régulation puisse se ridiculiser en prenant de telles décisions.
Pour le secrétaire permanent de l'Odemet Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, Gual Namassoum, il y a 2 poids, 2 mesures dans la prise de décision de cet organe de régulation.
On a l'impression que la Hama subit des pressions quelque part. Elle n'est pas vraiment indépendante comme son nom l'indique. Il y a des journaux qui mettent dans leur une des photos, à la limite en couleur même, des personnalités du régime qu'on accuse de grands voleurs de la République. Et ces gens-là, le Hama ne les appelle pas pour leur demander de leur donner leur source d'informations et aux petits hebdomadaires qui se battent pour informer le public qu'on demande ces informations.
En prenant de telles décisions contre les médias indépendants, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel a une autre mission, estime Dr Evariste Ngarlom-Toldé, ancien président de l'Union des journalistes tchadiens.
En quelques semaines, 3 décisions inacceptables sont prises. Il faut simplement croire qu'on tend vers le musulman de la presse. Il ne suffit pas d'attaquer, de s'acharner sur un organe de presse simplement parce que telle information a été sensible et qui a été diffusée et qui porte atteinte aux relations diplomatiques entre le Tchad et les pays amis, entre guillemets. Cela n'est pas suffisant pour autant sanctionner un organe de presse. On risque d'arriver à la fermeture des journaux et des radios et ça serait vraiment un recul pour la démocratie au Tchad.
André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nous vous parlions un peu plus tôt du 7e sommet sur la coopération sino-africaine, ce 7e forum. Eh bien, la Guinée est une autre terre choisie par la Chine pour ses investissements. L'Empire du Milieu a signé plusieurs conventions avec le gouvernement guinéen. Divers domaines sont concernés, notamment les mines. La présence de la Chine en Guinée ne fait toutefois pas que des heureux. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La Chine, l'une de nombreuses destinations du président guinéen. Alpha Condé y a obtenu plusieurs accords, des accords économiques mais aussi techniques. L'un des derniers actes officiels entre les deux pays est une assistance pour l'appui à la sécurité alimentaire, chiffrée à 6 millions de dollars et signée samedi en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans le pays, le Made in China est sur presque toutes les lèvres. Mais qu'en disent les Guinéens? D'abord, les réponses de quelques vendeurs rencontrés à Madina, le grand marché de Conakry.
Ils font des commandes que nous autres ne pouvons pas faire. Et quand ils amènent leurs commandes, ils revendent à un prix plus bas que nous on peut revendre ici.
Le secteur minier guinéen est dynamique depuis quelques années et la Chine entend y prendre sa place. En janvier, la société chinoise TBA obtient un accord d'investissement dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Il y a quelques mois seulement, la Guinée et Chalco, filiale du groupe Chinalco, ont signé une convention minière de 15 ans. Vraisemblablement, c'est la conséquence d'un accord cadre de prêt d'un montant de 20 millions de dollars signé l'année dernière entre la Chine et la Guinée. Selon plusieurs sources proches de ce dossier, la Guinée, qui obtient ce financement destiné à la réalisation d'infrastructures, va assurer aux entreprises chinoises des concessions minières au titre de contrepartie. Le chinois en Guinée, c'est aussi l'exploitation de bois dans le sud du pays. La coupe de bois dans cette partie de la Guinée est contestée. Les communautés ont même créé une association. Docteur Mamadi Onivogui est le chargé de communication de Touche pas ma forêt.
Nous nous sommes rendus compte que dans le temps du général Ansonin Conté, le contrat visait l'exploitation des forêts périurbaines. Mais maintenant, c'est tout dernièrement avec les manques de matières premières que subissait la société. La société aurait demandé au gouvernement guinéen de signer maintenant le protocole d'accord pour l'exploitation des deux forêts classées de Ziama et de Dieki. C'est ce qui a fait mal à toute la jeunesse guinéenne et plus particulièrement celle de la forêt. D'où la mise en place du collectif Touche pas ma forêt pour défendre les deux forêts.
D'autres parlent de menaces pour l'écosystème. Sur plus de 200 éléphants, il n'en reste qu'une vingtaine, alerte le porte-parole de Touche pas à ma forêt. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et pour clore cette partie magazine, cap sur le Burkina Faso, où une espèce de chenille comestible est revalorisée par les populations de l'ouest du pays durant la saison des pluies. La chenille de karité, ou Chitoumou de son nom local, fait la fierté de la région des Hauts Bassins. En fait, tout un festival lui est annuellement dédié. Au reportage à Bobo Diolasso de notre correspondant Issa Napon.
Prédateur d'un arbre fruitier appelé karité en Afrique de l'Ouest, la chenille ou chitoumou, dans le dialecte local, fait l'objet d'une véritable fierté au sein des populations de la région des Hauts Bassins. Pour revaloriser cette espèce de chenille comestible, une association s'active depuis une dizaine d'années dans cette région. Il s'agit d'une réelle nécessité de les mettre en avant, commente l'organisateur Lassina Sanou, président de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo Diolasso.
C'est le stock de la culture de la région des Hauts Bassins, c'est l'identité de la région des Hauts Bassins. Quand vous parlez de chitoumou, des chenilles de karité au Burkina Faso, immédiatement les gens font référence à Bobo Diolasso. C'est notre identité culturelle. Donc ce qui veut dire que c'est un aliment qui est très important, qui représente toute la région de Haut Bassin, d'où l'importance que nous lui accordons en organisant cette fête.
Le chitoumou, chenille de karité, est l'aliment le plus prisé dans cette région. Quand arrivent les premières pluies de la saison, la collecte peut ainsi s'engager, estime une des transformatrices présentes au festival. Pour Mamine, la quarantaine est bien entamée, le chitoumou est un concentré de vertus. Les vertus des chitoumous sont nombreuses. On les consomme par exemple pour soigner les maladies liées à la tension artérielle, les ulcères, sous forme séchée ou pas, ou encore en poudre. Ils représentent aussi un complément alimentaire pour des enfants et nous les vendons dans des récipients entre 1250 et 1500 francs CFA, selon la quantité. Autant de vertus qui font rappeler la nécessité de consolider ce type d'action culturelle, bénéfique à tout point de vue, affirme le professeur Babou Niang, président de la Association des détenteurs des savoirs occultes africains.
Même les gens, ceux qui l'ont initié, ne savent pas exactement le bonheur qu'ils sont en train d'apporter à l'Afrique. Le chitoumou, sur le plan scientifique, aujourd'hui est reconnu sur le plan mondial que ça peut traiter beaucoup de maladies.
Un danger cependant guette ce véritable symbole alimentaire de la ville de Bobo Diolasso. Les chenilles se font de plus en plus rares au fil des ans, constate avec anxiété Lassina Sanou.
L'enjeu est plus qu'important pour la région de Haut-Bassin. Il va falloir que les gens prennent conscience du danger qui menace sérieusement les chenilles de karité. D'abord, sensibiliser les populations à ne pas couper l'arbre de karité. Le chitoumou, c'est des chenilles qui ne sortent pas si des karités qui sont plantées par l'être humain. L'autre aspect, il va falloir sensibiliser les populations, surtout les paysans, à ne pas utiliser certains insecticides, certains pesticides qui nuisent carrément à la reproduction de la chenille de karité.
Plus de 100 tonnes de chitoumou sont collectées sur le karité par an, avec pour ambition, selon les festivaliers, d'en apporter une valeur ajoutée à terme en créant des unités industrielles de transformation spécifiquement dédié au Chitumou. Issa Napon, Bobodjou Lasso, VOA Afrique.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. C'était Xiao Gongchong à la technique. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.